France Inter, il est 13h. Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus au sommaire aujourd'hui. Lundi prochain marquera bel et bien un cap dans la lutte contre le Covid. Passe sanitaire et masque largement levé, mais aussi fin du protocole sanitaire en entreprise, annonce faite ce matin. Détail dans un instant. En Ukraine, au 13e jour de la guerre, un couloir humanitaire à la sortie d'une ville, Soumy, où des bombardements ont tué 21 personnes hier, selon les Ukrainiens. L'armée russe, pour l'instant, ne progresse plus dans le pays. Plus de 2 millions de réfugiés en dehors des frontières. Nous nous arrêterons sur la mobilisation en France. Ce soir, concert pour l'Ukraine sur France 2 et France Inter. Par ailleurs, le groupe pétrolier Shell met fin à ses activités liées au pétrole et gaz russes. 43% de femmes sur les écrans de télévision et à la radio. On progresse, mais pas encore de parité. C'est un rapport de l'ARCOM, l'ancien CSA. Son président, Roch-Olivier Maistre, est notre invité. Avec lui aussi, question sur la redevance que 4 candidats, dont Emmanuel Macron, veulent supprimer. Vos questions au président de l'ARCOM, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Nous sommes à 33 jours du premier tour de la présidentielle. Par ailleurs, l'ARCOM saisit la justice pour bloquer 5 sites porno accessible aux mineurs. Parmi les 5, il y a Pornhub. Notre feuilleton dans une maison de retraite qui a pour mot d'ordre la bientraitance. De quoi s'agit-il? Le gouvernement présente aujourd'hui son plan pour plus de contrôle dans les EHPAD. Et puis en ce 8 mars, journée internationale du droit des femmes, la scientifique Aurélie Jean est avec Frédéric Pommier. Elle nous fait écouter dans C'est une chanson, Katy Perry. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
La petite alerte Covid dont nous parlions hier dans ce journal. Taux d'incidence et de positivité en hausse dans les régions rentrées de vacances il y a 2 semaines. Cette petite alerte n'inquiète pas manifestement le gouvernement. Lundi prochain, plus de passe vaccinal obligatoire, sauf dans les hôpitaux et maisons de retraite. Plus de masque obligatoire non plus, sauf dans les transports collectifs. Et le gouvernement lève en plus aujourd'hui une nouvelle barrière, la fin du protocole sanitaire en entreprise lundi prochain. On vous détaille ce que cela veut dire dans un instant. D'abord, écoutez Éric Chevet, c'est le vice-président de la CPME, les petites et moyennes entreprises.
Retrouver les visages, c'est quand même un visage expressif. Donc, il y a des professions pour lesquelles ça compte quand même plus que d'autres, d'avoir l'expression des interlocuteurs. C'est pas négligeable le fait de retrouver cet aspect sans masque. Et donc, bon, les quelques endroits qui restent, je pense que chacun les comprend bien. Tout ce qu'on espère, c'est que ça dure le moins longtemps possible et que les scientifiques devront leur aval très bientôt pour que les politiques puissent prendre la bonne décision aussi vis-à-vis des EHPAD et des hôpitaux, enfin, etc., les lieux qui restent.
Propos recueillis par Louis Fontaine. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
Fin du protocole sanitaire en entreprise, qu'est-ce que cela veut dire, Laurent?
Alors, retour à une vie normale en entreprise, cela signifie plus de masques dès lundi prochain dans les espaces fermés et donc en entreprise. Décision attendue notamment dans les commerces après 2 années de protocole sanitaire. La fin du port du masque s'accompagne de la fin du pass vaccinal obligatoire pour tous les salariés accueillant du public. Pass vaccinal qui reste néanmoins indispensable, vous l'avez dit, dans les hôpitaux, les maisons de retraite. En entreprise, la fin du protocole sanitaire signifie le retour aux règles normales de fonctionnement, plus de distance sociale dans les espaces de travail ou dans les cantines d'entreprise, retour des moments de convivialité entre salariés, plus d'incitation non plus au télétravail. Ce protocole de 25 pages se transforme donc dès lundi prochain en un simple guide de 2 pages avec quelques règles d'hygiène élémentaires.
Allez, je vous invite à la cantine tout à l'heure pour fêter ça, Laurent Kramer, en rappelant, vous en disiez un mot, que évidemment les règles d'hygiène demeure, lavage des mains, nettoyage des surfaces et aération des locaux. Au 13e jour de guerre en Ukraine, combien d'exilés d'ores et déjà? Le haut commissaire des Nations Unies aux réfugiés, Filippo Grandi, était ce matin l'invité de France Inter.
Je pense qu'aujourd'hui, au plus tard demain, nous arriverons au chiffre effrayant de 2 millions de réfugiés ukrainiens qui ont passé les frontières des pays limitrophes. Nous savons qu'il y a des centaines de milliers de personnes en mouvement, terrifiées, qui essayent de fuir les zones de combat et de se réfugier tout d'abord à l'intérieur de l'Ukraine, dans des zones plus sûres, surtout à l'ouest, mais ça se rétrécit et donc l'espace de sécurité est plus petit et les gens vont inévitablement essayer de passer les frontières.
Plus de 2 millions d'Ukrainiens en dehors de leurs frontières, le cap a été franchi dès ce matin. 1 200 000 sont en Pologne, infiniment moins en France, ils sont près de 5 000 selon le gouvernement ce matin. Et le sujet devient politique à 33 jours du premier tour de la présidentielle face au très vaste élan de solidarité en France dont on parle dans un instant. Éric Zemmour doit justifier ses positions très dures que même le Rassemblement National ne prend pas. Je préfère que les réfugiés soient en Pologne, avait-il dit dans un premier temps avant d'adoucir quelque peu sa position. S'ils ont des attaches avec la France, nous leur donnerons des visas, dit-il ce matin. Ce que je ne veux pas, c'est qu'il y ait un tsunami fondé sur l'émotion. Le gouvernement, au contraire, met en scène sa volonté d'accueil. Kathleen Conte, le Premier ministre, était ce matin à la porte de la chapelle, à l'entrée de Paris. Pour la seule journée d'hier, 500 personnes sont arrivées dans la capitale. La maire de Paris, la candidate Anne Hidalgo, était aussi présente.
Jean Castex à la rencontre des réfugiés ukrainiens ce matin. Le Premier ministre a visité un centre d'accueil. De courts échanges avec les différents acteurs sur place, bénévoles du SAMU social, de la Croix-Rouge ou de France Terre d'Asile, échangent aussi avec des Ukrainiens.
Alors qui est Anastasia?
You speak English?
Il y a beaucoup de bilinguisme.
Non, je vais traduire.
So welcome Anastasia, welcome in
France.
Bienvenue en France.
Waskao prosim en France.
Merci beaucoup.
Le Premier ministre en a profité pour rappeler la position du gouvernement sur l'accueil de ces réfugiés.
Je constate que beaucoup de ces Ukrainiens m'ont manifesté tout de suite leur désir de vouloir travailler, mais en même temps, bien entendu, notre objectif commun, c'est qu'ils puissent retourner chez eux, évidemment, dès que les conditions le permettront. C'est un moment donc grave, difficile. La France doit être fidèle à la fois à ses valeurs, à ses traditions et à la gravité du moment.
Présente également Anne Hidalgo, pour la maire de Paris et candidate à la présidentielle, il faut accueillir tous les réfugiés ukrainiens sans distinction.
Pour moi, évidemment qu'il nous faut accueillir et que c'est une vocation de Paris et de la France que de faire cela et de ne pas faire le tri d'ailleurs. Il va falloir qu'on le fasse et dans la durée. Voilà.
Un discours suivi par la majorité des candidats à la présidentielle, y compris à droite, le moins accueillant restant encore Éric Zemmour.
Et le gouvernement promeut une plateforme pour organiser l'accueil des réfugiés. Il faut taper « Je m'engage pour l'Ukraine » sur un moteur de recherche sur Internet. À Saché, près d'Azel-Rideau, en Touraine, deux familles sont arrivées la semaine dernière, deux femmes avec leurs deux enfants. Tous sont originaires de Lviv, dans l'ouest du pays. Temporairement hébergée chez la sœur d'une de ces réfugiés qui habite Saché depuis 3 ans. Et les 4 enfants ukrainiens, Adrien Bossard, sont scolarisés depuis hier. Reportage avec vous Adrien, France Bleu Touraine.
À la sortie des classes, un hymne particulier retentit et tous les enfants de l'école de Saché agitent un petit drapeau à la main.
De l'Ukraine.
Car ils ont un nouveau camarade en maternelle, Dari, qui arrive tout droit de Lviv, à l'ouest de l'Ukraine.
Moi j'aime bien parce que les Ukrainiens, ils sont gentils. Nous on les apprendra à parler notre langue. Et eux, je suis triste pour eux qu'il y a la guerre dans leur pays. Du coup, ils sont obligés de quitter leur pays, c'est le seul moyen pour plus être en guerre.
Pour Sandy, parent d'élèves, c'est même une fierté de les accueillir.
Les enfants aujourd'hui, ils ont accès à trop d'informations, même si on essaye de les préserver. Donc quitte à être plongé là-dedans, autant qu'ils soient plongés dans le bon côté. Voilà, on parle d'intégration, on parle d'échange, on parle de solidarité. Je trouve ça génial.
Les 3 autres jeunes Ukrainiens, eux, sont scolarisés au collège d'Azel-Rideau, à quelques kilomètres. Un geste qui touche Natalia, l'une des deux mamans. Quand vous vous cachez dans les sous-sols en attendant que la sirène s'arrête, dit-elle, forcément ça fait du bien. Les gens ici sont gentils, prêts à aider n'importe comment. Mais le but est de rentrer chez nous un jour. Et on espère que tout ira mieux. En attendant de retrouver son papa, resté au pays pour combattre, Artem, 12 ans, lui, commence à se familiariser avec la langue française.
Très bien.
Très bien.
Très bien.
Et devrait retrouver d'autres camarades ukrainiens. Une nouvelle famille avec enfants doit arriver cette semaine à Saché.
Et alors que les exilés ukrainiens ne sont pas très nombreux pour l'instant, dans la presse régionale, dans les mairies, les communes, on ne peut que constater un très vaste élan de solidarité. En ligne avec nous, Virginie Guiraudon. Bonjour madame.
Bonjour.
Directrice de recherche au CNRS et au Centre d'études européennes et comparées de Sciences Po Paris, spécialiste des politiques d'immigration. Vous avez notamment écrit les politiques d'immigration en Europe. Est-ce que vous avez déjà vu un tel élan de solidarité ?
Alors, il a existé au tout début de la crise des réfugiés, comme on l'a appelé en Europe, c'est-à-dire en 2015, quand plus d'un million de Syriens sont arrivés. Mais c'est vrai que là, ce qu'on voit, et vous avez mentionné la campagne électorale, c'est que tous les partis pratiquement sont prêts à accueillir des réfugiés. Et puis, il y a, comme vous l'avez noté, beaucoup d'initiatives, de maires, d'associations, de particuliers, même d'entreprises pour les accueillir. Donc c'est effectivement assez inédit et assez différent des précédents flux de réfugiés.
Vous l'expliquez comment ?
Alors il y a un discours qui est très fort sur l'idée que ce sont par exemple des frères européens, oui. C'est ce que a dit Philippe Alliot qui est le maire de Perpignan. Donc il y a la façon dont c'est présenté, c'est que ce soit là on accueille en fait des cousins ou des frères. Je l'explique comme ça parce que par ailleurs il y a moins d'Ukrainiens en France que dans d'autres pays de l'Europe, il y en a à peu près 30 000 a priori. Donc c'est vraiment, je pense que on est aussi dans des images qui montrent aussi beaucoup de femmes et d'enfants ou de personnes âgées. Donc je pense que ça explique aussi pourquoi il y a de la solidarité qui s'exprime très vite.
Louis Alliot, le maire de Perpignan, proche de Marine Le Pen. Il y a aussi une différence, me semble-t-il, entre cet élan très concret et finalement le nombre relativement limité de personnes dans la rue, dans les rassemblements, comme si la mobilisation se faisait dans du concret, dans du faire.
Oui, alors c'est pour ça que je disais, il y a moins d'Ukrainiens en France, même si je pense que c'est un relais important, mais plus on les trouve en Espagne, en Italie, oui. En Pologne, bien sûr. Malgré tout, je pense que cette notion, comme vous dites, d'élan concret, il faut savoir qu'il y a quand même un tissu associatif en France très fort et qui est habitué, j'ai envie de dire, à réagir assez vite,
à se mobiliser
dans ce genre de situation.
Et ça marche aussi dans la diplomatie. Le cas de Calais, par exemple, le Royaume-Uni annonce l'installation d'un centre de demande de visa pour les réfugiés ukrainiens. On sait à quel point c'est parfois compliqué entre France et Grande-Bretagne à propos des réfugiés. Là, ça se débloque plus vite, semble-t-il.
Oui, même si le Royaume-Uni est toujours un petit peu ambivalent. Le Premier ministre Johnson a dit qu'ils accueilleraient au moins 200 000 réfugiés, et puis ils ont quand même continué à demander des papiers et des visas, oui. mais vu la position du Royaume-Uni sur la guerre, oui. En Ukraine, c'est difficile de ne pas accueillir les réfugiés.
Virginie Guéraudon, dernière question. Vous voyez une différence de traitement avec les Syriens, les Irakiens, les Afghans. On parlait de migrants avant, là on parle plus volontiers d'exilés. Il y a une différence de regard, pour le dire très simplement.
Ah oui, puis il y a une différence très importante au niveau de l'Union européenne, puisque pour la première fois depuis la directive qui avait été adoptée en 2001, ces personnes auront un statut de protection temporaire dans, oui, tous les pays de l'Union européenne, dont la France, qui leur permettra d'éviter tout le parcours du combattant administratif. Ils auront tout de suite accès à l'éducation, au travail pour les adultes, à un logement. Donc c'est la première fois que ça arrive dans l'Union européenne qu'on active cette directive pour que ils n'entrent pas dans un espèce de parcours où ils vont devoir demander des papiers. Donc c'est la première fois que ça arrive en fait dans l'Union européenne.
Merci beaucoup Virginie Guéraudon d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. Je rappelle les références de votre livre Les politiques d'immigration en Europe aux éditions de l'Harmattan, et l'association des maires de France lance un appel: on manque de traducteurs pour faciliter l'accueil et l'intégration des réfugiés ukrainiens. La solidarité donc pour accueillir ces exilés, mais le président ukrainien, lui, durcit le ton à l'égard de l'Occident. 13e jour de conflit, et voici le message du jour de Volodymyr Zelensky.
13 днів. Cela fait 13 jours qu'on entend des promesses, 13 jours qu'on nous dit qu'on nous aidera dans le ciel, qu'il y aura des avions, qu'on nous les livrera. Mais la responsabilité pour cela repose aussi sur ceux qui n'ont pas été capables de prendre une décision en Occident depuis 13 jours. Sur ceux qui n'ont pas sécurisé le ciel ukrainien des assassins russes.
Et une nouvelle tentative pour établir des corridors humanitaires est menée aujourd'hui. Hier, l'Ukraine avait refusé, notamment parce que les corridors menaient en Russie ou Biélorussie. Pour aujourd'hui, l'agence Interfax à Moscou évoque des couloirs à la sortie de Kiev et 4 autres villes, dont Kharkiv et Mariupol. Et puis Tcherniv, au nord-est de Kiev. C'est là que Cécilia Arbona a joint ce matin Oleksiy Moutsky. Il est étudiant, il a 21 ans, il vit avec sa mère dans un appartement au 4e étage de son immeuble. Il a passé la nuit au sous-sol. Il ne veut pas des couloirs humanitaires.
Bien sûr que c'est un mensonge. Ce que les Russes disent, qu'ils vont cesser le feu, par exemple pour Tcherniv, ça n'a aucune valeur juridique. Alors, je peux dire que maintenant, c'est plus calme que la nuit. Il y avait les alarmes pendant la nuit. Donc, il faut aller au sous-sol et il faut se cacher. Alors maintenant, oui, je suis dans mon appartement parce que je suis malade dans le sous-sol. Il fait froid et c'est trop sale. Maintenant, dans notre immeuble, certaines vitres ont été brisées. Je peux pas les croire. Je comprends pas pourquoi ils pensent que moi, je veux m'évacuer au Biélorussie et puis à Russie. Je veux pas mourir dans les prisons. Donc, je crois que s'évacuer au Biélorussie ou s'évacuer en Russie, c'est la même chose que se tuer. C'est mieux d'être le prisonnier des villes libres de Tcherniv que être le prisonnier des Russes.
Et à ce stade, les Ukrainiens ne confirment la mise en place d'un couloir humanitaire que dans une ville, celle de Soumy, à l'est, près de la frontière russe. Des bus ont déjà quitté la ville, à en croire le gouverneur local. Priorité aux handicapés, aux femmes enceintes et aux orphelins. Soumis ou selon les autorités ukrainiennes, 21 personnes, dont 2 enfants, ont été tuées hier soir par des frappes aériennes. Il n'y a pas de confirmation de ce bilan de sources indépendantes. La situation militaire dans le pays change peu. L'encerclement des villes, la tentative d'établir une continuité territoriale au sud, le long de la mer d'Azov, mais pas d'avancée ou conquête russe flagrante ces dernières heures. Alors qu'à en croire les renseignements américains, les dizaines de milliers de soldats qui avaient été rassemblés aux frontières avant la guerre ont tous été déployés en Ukraine. Comment analyser cette relative stagnation? Élément de réponse avec Nathanaël Charbonnier.
Il y a des problèmes de logistique, de résistance des Ukrainiens. C'est ce qui explique en partie pourquoi les 200 000 soldats russes lancés dans la bataille n'arrivent pas à avancer comme ils le souhaiteraient. On est loin de l'invasion de Prague en 68 lorsque l'armée russe avait pris le pays en quelques jours. Mais attention, ce n'est pas parce que cette première phase ne se déroule pas comme prévu que la guerre est perdue pour les Russes. Loin de là, analyse le spécialiste militaire Pierre Servant.
Il y a difficulté par rapport au plan d'origine. C'est-à-dire l'idée d'une conquête très rapide du territoire, une chute de Kiev facilitée par un coup d'État, ce plan-là est déjoué, la machine russe bute sur la résistance ukrainienne. Mais dans la durée, sauf miracle, malheureusement, le rouleau compresseur russe arrivera à ses fins, mais ce qui ne veut pas dire que la résistance ukrainienne sera tuée. C'est pour ça que les buts de guerre de Poutine sont fous.
Des buts de guerre fous, car occuper l'Ukraine avec seulement 200 000 hommes est mission impossible. Pour mémoire, durant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne avait déployé près de 450 000 hommes en France pour occuper notre pays, qui est plus petit que l'Ukraine.
Ce qui stagne aussi, c'est l'angoisse infernale que ressentent les Ukrainiens dans les villes menacées, nuit après nuit. Vanessa Descoureaux, envoyée spéciale de France Inter, nous décrit l'ambiance dans une des villes clés des combats dans le sud, Odessa.
L'opéra d'Odessa se cache derrière de gros sacs de sable. Ce bijou architectural d'inspiration italienne se retrouve dans une zone militaire complètement inaccessible aux civils. Odessa se retranche comme ces légendaires escaliers de Potemkin sous bonne garde désormais puisqu'ils offrent un point de vue inégalable sur la mer Noire et bien évidemment sur le port de la ville. Odessa ne semble pas trop savoir à quoi s'attendre en fait, partagé entre le sentiment d'être épargné pour le moment, épargné par les combats, épargné aussi par les pénuries d'essence et de nourriture. Mais Odessa est tout aussi certaine de devoir affronter dans un avenir proche les forces russes, forces navales et forces aériennes. Ici règne le sentiment d'être l'objectif final de Vladimir Poutine sur ce front sud qui progresse assez vite. La prise d'Odessa signifierait tout simplement le contrôle de plus de 1000 km de côtes ukrainiennes.
Et entre Russie et Occident, la bataille des nerfs continue autour du gaz et du pétrole. L'Europe a des solutions pour devenir indépendante du gaz russe, affirme Bruno Le Maire. Parmi les dernières déclarations aussi du côté russe, cette fois la menace de couper le robinet de gaz en direction de l'Allemagne en particulier, l'Allemagne particulièrement dépendante. Du côté de l'action diplomatique, quelle influence le dirigeant chinois Xi Jinping peut-il avoir sur Vladimir Poutine? Hier, Pékin a parlé d'une amitié solide comme un roc avec Moscou. La Grande Chine ne s'est pas associée pour l'instant aux condamnations internationales. La Chine est un point d'interrogation, dit le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Bonjour Sébastien Berriot.
Oui, bonjour.
Correspondant de France Inter en direct de Pékin. Ce matin, Sébastien, se tenait un entretien à trois, Macron, Olaf Scholz, le chancelier allemand, et Xi Jinping.
Oui, et d'après le premier compte-rendu de l'entretien donné par la télévision centrale chinoise, Xi Jinping a exprimé tout à l'heure sa profonde préoccupation sur la situation en Ukraine, appelant à la plus grande retenue. Le président chinois a également expliqué à Emmanuel Macron et au chancelier allemand qu'il n'était pas favorable aux sanctions qui sont mises en place contre la Russie, car cela, a-t-il dit, risque de porter préjudice à toutes les parties et à toute l'économie mondiale. Emmanuel Macron a remercié la Chine pour son implication, même si les Européens attendent aujourd'hui clairement une implication différente de la part du régime de Pékin. Les dirigeants capables d'avoir une influence sur Vladimir Poutine sont très peu nombreux dans le monde et Xi Jinping en fait partie, mais pour le moment, le régime communiste agit avec beaucoup, beaucoup de prudence pour préserver sa relation avec Moscou. Tout juste peut-on attendre une certaine forme de neutralité dans le cadre d'une possible médiation internationale. Xi Jinping s'est dit prêt ce matin à jouer un rôle actif dans ce cadre-là, mais pas davantage. Aucune déclaration, aucun acte qui pourrait venir froisser Moscou. Illustration très concrète et très parlante, Bruno, c'était vendredi dernier lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Oui. Le président du Comité international paralympique se disait dans son discours horrifié par la situation en Ukraine. Eh bien, ses propos, qui auraient pu heurter la Russie, ont tout simplement été censurés en direct par la télévision chinoise qui retransmettait l'événement.
Sébastien Berriot en direct de Pékin pour France Inter sur les différents marchés. La cotation du nickel a été suspendue à Londres. Le prix s'envolait encore, le baril de pétrole toujours au-dessus des $120, avec évidemment des conséquences à la pompe. En moyenne, on est à 1,88-1,89€ le litre, que ce soit pour le gazole ou le sans-plomb 95. Nous allons continuer à protéger les Français pour les factures d'électricité et de gaz, assure le gouvernement. Le porte-parole Gabriel Attal ce matin sur France Inter promet aussi des mesures contre la hausse des prix du carburant. Ce soir, Jean Castex échange avec professionnels, syndicats et patronats pour préparer le plan de résilience promis. Pour la CGT, Philippe Martinez demande une baisse des taxes sur les produits pétroliers et en termes de pouvoir d'achat, un choix à sa préférence.
Il y a beaucoup de mobilisation dans tout le pays, dans les entreprises, sur l'augmentation des salaires. Et de ce point de vue-là, le gouvernement peut faire plus qu'un geste au niveau de l'augmentation du SMIC. Il y a besoin, plus que des chèques occasionnels, d'une vraie politique salariale. Le gouvernement pourrait donner l'exemple vis-à-vis des fonctionnaires dont le point d'indice est gelé depuis maintenant plus de 10 ans.
Philippe Martinez avec nos confrères de France Info. Alors le pétrole et l'essence à près de 2€ le litre et même au-delà en certains points de vente. Le carburant est un poste de dépense important, mais dans un contexte où l'inflation était à 3,6% en février et où la guerre aura des répercussions sur le prix de toute une série de produits, comment les ménages s'adaptent-ils? Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
L'Institut Kantar, spécialisé dans le marketing et la consommation, publie une étude à ce sujet.
Oui, 13 000 foyers interrogés et la problématique du pouvoir d'achat au cœur des préoccupations pour 83% d'entre eux avec comme question centrale l'alimentation. Alors, première piste de publicité, la lutte contre le gaspillage, acheter les produits frais à la date limite de consommation proche avec en général une réduction de 20 à 30%, utiliser les applications anti-gaspi pour récupérer en fin de journée des paniers d'invendus en boulangerie ou chez le traiteur, ne pas hésiter à demander un doggy bag dans les restaurants pour réaccommoder les restes. Le fait maison est d'ailleurs une autre piste, mais contrairement aux périodes de confinement, les Français n'ont plus trop le temps de passer des heures devant les fourneaux, donc du vite fait maison. Les consommateurs sont également à l'affût des promotions et privilégient les magasins les moins chers. Aldi et Lidl qui ont ainsi atteint la barre symbolique des 10% de part de marché, mais aussi Leclerc, Intermarché, Système U et Carrefour. Envisagez aussi pour les foyers les plus fragiles de baisser en gamme pour les produits essentiels comme le lait, les œufs, la farine, les pâtes et diminuer les achats de produits dits de confort comme la beauté, les eaux et les alcools. Un tiers des foyers interrogés disent enfin se sentir vulnérables dans le contexte actuel. C'est 2 fois plus que le pourcentage de foyers définis comme fragiles par l'INSEE. Preuve, Bruno, de l'inquiétude grandissante.
Et donc du vite fait maison. Je retiens vite fait le CAC 40 à l'instant, plus 2% l'indice boursier qui remonte après la journée mouvementée d'hier. C'était il y a un mois et demi. Le livre du journaliste Victor Castanet, Les Fossoyeurs, dénonçait un système de maltraitance au sein du groupe de maisons de retraite Orpea et créait une déflagration. Le gouvernement avait promis plus de contrôle. Le plan est présenté aujourd'hui. Est-ce qu'il est à la hauteur du scandale, Anne Orenstein?
Eh bien, puisqu'il faut des contrôles, il va y en avoir. Bruno, le gouvernement annonce un grand plan de contrôle des 7500 EHPAD de France d'ici 2 ans. Alors pour y arriver, les effectifs des agences régionales de santé seront renforcés et pour contrôler les aspects financiers, les chambres régionales des comptes pourront être sollicitées. En priorité, les contrôles vont viser les EHPAD qui ont fait l'objet d'un signalement. Un signalement finalement, normalement, c'est ce qui déclenche les enquêtes inopinées. C'est bien la preuve que pour l'instant, beaucoup restent lettre morte. Pour plus de transparence et une meilleure information des familles, le gouvernement annonce aussi la publication de 10 indicateurs sur Internet. Les taux d'encadrement, de rotation du personnel, d'absentéisme, le budget quotidien des repas, ce sera du déclaratif, info fournie par les EHPAD eux-mêmes. Ils auront quand même l'obligation de publier chaque année une enquête de satisfaction dont le questionnaire sera établi par la Haute Autorité de Santé. Là, au moins, on ne sera pas sur TripAdvisor. Et quid des sanctions ? Eh bien, elles ont été renforcées en 2019. Visiblement, on va en rester là, en tout cas pour cette mandature.
Une autre maison de retraite est-elle possible ? Oui, tout à l'heure dans le feuilleton, un reportage dans un EHPAD coopératif à dimension humaine. C'est à Cerizay dans les Deux-Sèvres. Nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Dans quelques minutes, le président de l'ARCOM, ex-CSA, nous présente l'étude sur la présence des femmes à la télévision et la radio. Autre éclairage tout de suite, vous savez que dans certaines écoles, les cours de récréation ont été réaménagés pour faire plus de place aux filles. Que les garçons, très majoritaires dans les parties de foot ou de basket, ne prennent pas toute la place. Ils peuvent aussi inviter les petits êtres à couette et queue de cheval à jouer avec eux, ça se fait. Le débat fait rage par exemple à l'école Chevreuil de Dijon. Cours réaménagé, nouveau jeu. Chaque partie de la cour est réservée à une activité. Résultat, eh bien voici l'avis des premiers concernés au micro de Pauline Boudier, France Bleu Bourgogne.
Il y a certains garçons qui veulent pas qu'on joue avec eux. Ils disent non, c'est pas pour les filles ou non, vous savez pas jouer. Mais si on sait pas jouer, c'est parce qu'ils nous laissent pas jouer aussi.
Puis aussi, il y a des jeux où il y a les filles, elles disent non aux garçons. Par exemple, un jour, j'ai voulu jouer avec des filles le touche-touche, puis elles ont dit non parce que j'étais un garçon.
Maintenant, on a appris l'égalité filles-garçons, les CM2 aussi, donc on peut plus jouer.
Aussi, on installait des jeux, donc maintenant tout le monde joue ensemble et du coup c'est mieux. On a un ballon de basket, tout le monde y joue, des jeux de société, tout le monde a le droit de jouer, donc je pense que c'est beaucoup mieux.
Voilà, les choses peuvent changer, donc aller football ailleurs que dans la cour de récré, les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions commencent ce soir, Bayern Munich, Salzbourg, hein, partout à l'aller, Liverpool, Inter de Milan, les Anglais avaient gagné 2-0 à l'aller, demain Real Madrid, PSG, Mbappé touché au pied à l'entrée et dans le groupe. Avant la météo, je voulais vous rappeler ce rendez-vous ce soir, 21h, sur France Inter et France 2. Grand concert, uni pour l'Ukraine. Des musiques de tous les horizons. La variété de Barbara Pravi et Indochine, en passant par Clara Luciani et Florent Pagny. Le classique aussi, un couple ô combien symbolique. Un danseur ukrainien, une russe, sur le lac des Cygnes. Et puis l'Orchestre National et le Chœur de Radio France interpréteront ceci, hymne à la liberté des peuples. Le cœur des esclaves, Va Pensiero, extrait du Nabucco de Verdi qui résonnera ce soir à l'auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique. Le concert pour l'Ukraine se déroulera parallèlement au studio 104. C'est donc à 21h animé par Nagui et Leïla Kadour. Dans un instant, la météo, puis le président de l'ARCOM, Roch-Olivier Maistre, invité de France Inter.
Le goût, c'est pas dans l'assiette, c'est dans la tête.
France Inter et la Massif vous proposent Les Secrets du Goût, une conférence interactive animée par François-Régis Gaudry.
Rendez-vous le mardi 5 avril à 20h avec mes invités, le neurobiologiste Gabriel Lépouzé et la chef étoilée Stéphanie Lequelec pour des expériences inédites et un voyage immersif au cœur de nos papilles.
Les Secrets du Goût, une soirée unique à vivre au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique et en direct dans plus de 150 salles de cinéma en France. Informations sur franceinter.fr.
En partenariat avec La Massif. La Massif, c'est vous. Après Mémé dans les orties, Aurélie Valogne signe son grand retour à la comédie avec son nouveau roman, La Ritournelle. Des non-dits, de la mauvaise foi et beaucoup d'amour propre pour un dîner de famille explosif. La Ritournelle, le nouveau roman d'Aurélie Valogne, une comédie aussi piquante que jubilatoire aux éditions Fayard.
Saviez-vous que votre peau produit naturellement de l'acide hyaluronique ? Au fil du temps, cette production diminue et les rides apparaissent. Eucérine innove avec une nouvelle génération de soins anti-âge. La formule révolutionnaire Eucérine Hyaluron Filler plus Triple Effect comble les rides, stimule la production naturelle d'acide hyaluronique et le protège de la dégradation. Résultat, 200% d'acide hyaluronique en plus. Les rides et ridules sont réduites pour une peau visiblement plus jeune. Eucérine Hyaluron Filler plus Triple Effect en pharmacie et parapharmacie.
Détails des tests cliniques sur eucérine.fr.
Le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Depuis 30 ans, les experts Euromaster sont au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
De la pluie à l'ouest et des températures en hausse.
Oui, de nouvelles pluies s'étendent de la Bretagne vers le sud-ouest avec un vent de sud. On attend un petit peu de neige sur les Pyrénées. Le ciel sans nuages jusqu'à la Basse-Normandie, à l'ouest du Massif central et au Roussillon. Sur le Languedoc et sur les Cévennes, c'est à nouveau encombré aujourd'hui avec un petit peu de pluie, un vent de sud-est. Du nord de la Seine vers la région parisienne, le centre Val-de-Loire, l'Auvergne, jusqu'aux régions de l'Est, là c'est du soleil. Avec un petit risque d'averse quand même pour la région PACA et pour le sud de la Corse. Les températures, elles sont en hausse. On attend 7 degrés à Cambrai, Mulhouse, 13 degrés à Cabourg, Nantes, Agen et Ajaccio, 14 à Paris, il en faisait seulement 7 hier après-midi, 14 à Grenoble également et jusqu'à 17 à Perpignan. Et puis demain encore quelques degrés de plus, y compris le matin, ça c'est la bonne nouvelle. Le soleil résistera à l'est, mais de nouvelles pluies gagneront la Bretagne l'après-midi.
Merci Elodie Calac, Météo France, il est 13h30.
France Inter, le 13-14. Bruno Dilly.
Ce 8 mars est une date clé à plusieurs égards pour le CSA, devenu le 1er janvier dernier l'ARCOM, Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique. Ce 8 mars, alors que l'on connaît depuis hier la liste des candidats à la présidentielle, les médias audiovisuels, télévision, radio, sont soumis au principe de l'équité renforcée dans le traitement des candidats. Pas question d'exposer la parole ou les commentaires à propos de l'un au milieu de la nuit, quand d'autres auraient droit au prime time. Ce 8 mars également, Journée internationale des droits des femmes, l'ARCOM publie son rapport sur la représentation des femmes à la télévision et la radio. Il y a des progrès réels, mais on n'est pas encore à la parité. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions au président de l'ARCOM. Bonjour Roch-Olivier Maistre.
Bonjour Bruno Duvic.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de France Inter. J'ajoute deux actualités. D'abord, l'ARCOM vient de saisir la justice pour demander le blocage de 5 sites pornographiques, dont Pornhub, sites qui ne font rien pour empêcher l'accès des mineurs.
Oui, c'est une nouvelle compétence que le législateur a donnée au régulateur, c'est de s'assurer que ces sites mettent en place des dispositifs qui permettent de s'assurer que les personnes qui se connectent sont effectivement majeures, puisque vous savez que le code pénal interdit d'exposer des mineurs à des contenus pornographiques. Donc on avait mis en demeure ces sites à la fin de l'année dernière de faire la démonstration qu'ils avaient mis en place les dispositifs en question. On a constaté par des constats d'huissier que nous avons fait au début de cette année que tel n'était pas le cas, et donc on a saisi la justice. C'est la justice qui se prononcera, et le cas échéant, qui prononcera le déréférencement et l'interdiction de ces sites. On verra ce que la justice décidera.
Et c'est l'affaire de votre point de vue de quelques mois ?
C'est l'affaire de quelques... Oui, c'est une procédure judiciaire, donc il y aura un débat bien évidemment contradictoire avec les parties. Et j'ajoute qu'on va mettre vraisemblablement en demeure deux autres sites sur lesquels nous sommes en train de faire également des constats. Donc c'est un processus de mise en œuvre par le législateur des dispositions souhaitées par la loi. C'est notre mission, c'est notre feuille de route, c'est la loi.
Vous êtes saisi par beaucoup de familles, de particuliers, de cette question de l'exposition des mineurs.
Oui, c'est singulier qu'on évoque ce sujet le 8 mars, journée de la femme. On sait combien ce sujet de la place des femmes dans ces films est crucial, et notamment pour les plus jeunes. Donc on est saisi effectivement par des associations de protection de l'enfance, par des mouvements féministes également, qui sont très attentifs à ces sujets. Il y a eu plusieurs enquêtes journalistiques ces derniers temps qui ont montré aussi ce qu'était la réalité de l'industrie du porno.
Dans le journal Le Monde, notamment.
Il ne s'agit pas d'interdire en tant que tel le porno. Le porno n'est pas interdit par la loi. Mais là, en l'occurrence, c'est une question de protection des mineurs. Maintenant, la balle est dans le camp de la justice.
Autre sujet d'actualité, il y a beaucoup de questions à ce propos. On va tout de suite prendre celle de Monique. Il s'agit de la redevance audiovisuelle. Bonjour Monique.
Bonjour à tous.
Nous vous écoutons.
Voici ma question. La suppression de la redevance ne va-t-elle pas engendrer une baisse de qualité et de variété des programmes offerts par le service public ? Programmes qui, de mon point de vue, sont bien supérieurs à ceux proposés par les entreprises privées de l'audiovisuel. Et peut-être à terme, orienter les libertés d'opinion. Merci.
Merci Monique pour votre question. Donc quatre candidats Roch-Olivier Maistre désormais. Emmanuel Macron, depuis hier, propose la suppression de la redevance. Est-ce que le financement de l'audiovisuel public en est menacé de votre point de vue ?
Écoutez, j'ai deux convictions. Je me suis souvent exprimé publiquement sur ces sujets, donc je suis très à l'aise pour donner mon sentiment, et mon sentiment est aussi celui du collège. D'abord, on a besoin d'un service public fort, à la fois pour la qualité de l'information. Vous en êtes une parfaite illustration ici à Radio France, mais on pourrait le dire également sur ce qui se passe de nos correspondants à l'étranger, de France Média Monde, de France Télévisions, qui en ce moment nous informent sur la situation en Ukraine avec énormément de courage. Oui. C'est très impressionnant. Donc la qualité de l'information, mais aussi le rôle central que le service public joue dans le financement de la création. On oublie toujours cette dimension-là. Le service public est l'un des premiers financeurs de la création dans notre pays. Donc on a besoin d'un service public fort, singulièrement dans une période où on a des mouvements de concentration dans l'audiovisuel, et donc avoir un pôle de stabilité publique, comme ça existe dans tous les pays de l'Union européenne, c'est quelque chose d'important. Et deux, si on veut un service public fort, il faut qu'il ait une ressource qui soit pérenne. C'est des entreprises de taille très importante. Radio France, c'est 4500 salariés. France Télévisions, on est près, un peu au-dessus de 8000.
La redevance, c'est 3,2 milliards d'euros.
Voilà. C'est des entreprises qui ont besoin de visibilité, de quelles ressources financières elles auront dans la durée, qui ont besoin de stabilité, qui ont besoin d'un dynamisme dans leur financement et en même temps d'une indépendance dans leur financement. C'est un élément central. Donc il faut trouver une recette. Alors c'est vrai que la question de la redevance était posée puisque la taxe d'habitation disparaît, comme on le sait, début 2023. Donc de toute façon, il y avait un sujet, il faut trouver une solution. On sait maintenant ce que plusieurs candidats proposent, donc la suppression. On ne sait pas encore pour tous ce qu'ils proposent à la place. Il faut en tout cas trouver un mécanisme qui assure cette pérennité de financement, cette stabilité, si on veut avoir ce service public fort.
Verser cela au budget général de l'État, cela ne suffit pas. Il faut le flécher très clairement et le flécher sur plusieurs années.
Je pense qu'il faut avoir effectivement un dispositif qui donne de la visibilité et de la durée. Alors, est-ce que ça prend la forme d'une loi de programmation comme ça existe dans un certain nombre de domaines? Je pense à la défense. Je fais confiance aux budgétaires pour trouver des solutions, des dotations spécifiques qui assurent une qualité. Il faut avoir un critère d'indépendance. Pourquoi ne pas envisager, si on emprunte cette voie, que le régulateur donne chaque année un avis sur les dotations qui sont attribuées au service public.
Et sur le montant de la redevance.
Et sur le montant de cette contribution. Donc voilà, maintenant, on attend les conclusions d'une mission qui est conduite en ce moment par l'Inspection Générale des Finances, notamment. Et on verra les propositions. Mais en tout cas, le régulateur sera très attentif à ce financement, une fois encore, d'un service public fort dont nous avons besoin.
Et financement pérenne. Encore une question sur le contexte politique. Nous sommes donc entrés, Roch-Olivier Maistre, dans pour le temps de parole des candidats, dans la phase d'équité, équité spécifique, c'est-à-dire qu'il y a des tranches matin, midi, soir et nuit. Le temps de parole et le temps de traitement des candidats doit être équitable, équivalent, on va le dire comme ça. Expliquez-nous cela, est-ce que ça veut dire, pour le dire très simplement, que Philippe Poutou égale Emmanuel Macron ou que Jean Lassalle égale Jean-Luc Mélenchon ?
Alors, je crois que ce qu'il faut rappeler à nos auditeurs, c'est que ce principe du respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion est inscrit dans notre Constitution, est inscrit dans la loi, et que c'est une mission ancienne du régulateur depuis qu'il existe, une quarantaine d'années maintenant, et qu'on exerce toute l'année. Toute l'année, on s'assure que les formations qui concourent au débat politique ont un accès équitable aux médias. Mais on le fait de façon renforcée, effectivement, dans la période électorale, et donc depuis le 1er janvier, on a un dispositif qui est en place, qui se renforce, comme vous l'avez dit, depuis le 8 mars. Donc là, on rentre dans une période dite de l'équité renforcée. Ça veut dire que chaque candidat, les 12 candidats, puisque maintenant on connaît la liste des candidats, doivent être traités de façon équitable au regard de leur poids politique. Ce poids politique étant apprécié sur une série de critères, les résultats aux dernières élections depuis l'élection présidentielle de 2017, les législatives, les représentations au Parlement, le nombre de députés, le nombre de sénateurs, des élections intermédiaires qui ont pu avoir lieu, les sondages d'opinion, les dynamiques de campagne, il y a des moments où ça monte, il y a des moments où ça descend. Et donc en fonction de ce poids politique, les candidats doivent être traités de façon équitable et doivent être traités également de façon équitable à condition de programmation identique. Donc on a des tranches horaires qui sont identifiées, les matinales, la journée.
Pour la radio, pas la matinale d'un côté et la nuit de l'autre.
Exactement. Donc il faut que les candidats soient traités de façon équitable. Et pour répondre à votre question, bien Philippe Poutou qui porte son programme, et il faut qu'il puisse avoir accès aux médias, mais son poids politique n'est pas le même que celui du président sortant. Et donc la pondération se fait. C'est un dialogue qu'on a régulièrement avec les rédactions. Les rédactions nous communiquent les temps de parole de façon périodique.
Et d'ailleurs, la période précédente, est-ce que vous avez noté des dépassements,
non, parce
des
que iniquités voilà, il a fallu, parce qu'on apprécie ça de façon dynamique, donc on fait pas ça d'une semaine à l'autre, on regarde dans le temps comment les choses évoluent, on a un dialogue régulier avec les rédactions sont très rompues à l'exercice, c'est un exercice difficile pour les rédactions hein, d'assurer cet équilibre, on a un dialogue intelligent avec eux, on n'a pas constaté de situation parfaitement anormale, on a pu ici ou là demander des rectificatifs, mais pas dans des proportions graves.
Encore une question, et puis on parle du rapport sur la présence des femmes à la télévision et la radio, le temps de parole d'Emmanuel Macron quand il parle en tant que président de la République ou président des instances européenne n'est pas décomptée, ça veut dire que vous, Arcom, comme nous, médias, on est obligé de prendre phrase par phrase pour savoir où mettre chaque phrase.
Bon, ça paraît un peu subtil comme ça, mais c'est quelque chose qui est en vigueur depuis déjà un certain nombre d'années, ça fait suite à une décision du Conseil d'État de 2009. Donc on distingue les propos du président de la République, les propos dits régaliens quand il s'exprime au strict titre de sa fonction de chef de l'État. Donc là, ce temps n'est pas décompté en tant que tel dans le temps de sa candidature. Et puis, le moment où il intervient dans le débat politique.
Le distinguo est compliqué en ce moment.
Oui, mais pas tant que ça. Écoutez, ces chiffres, je le dis à tous vos auditeurs, sont publiés, sont rendus publics, donc sont sous le regard des uns et des autres. Et on voit que voilà, le traitement est fait de façon équitable. J'ajoute que dans la dernière période, qui sera la période de la campagne officielle, les candidats seront traités de façon égale, de façon stricte. Là, pour le coup, M. Poutou sera traité comme M. Macron.
Absolument, ça c'est une phase d'une quinzaine de jours.
C'est les 15 jours qui précèdent le premier tour.
La présence des femmes à la télévision et la radio, bonne nouvelle, elle progresse.
Oui, on est un peu comme dans la chanson d'Alain Souchon, je dirais. On avance, on avance, on avance. Mais il reste encore un peu de marge. Alors on avance parce que le taux qui est ressorti de notre rapport de cette année pour l'année 2021 est de 43%. Donc ça identifie la place des femmes dans les émissions de télévision. Donc la place des journalistes. Donc 43%, c'est
télévision presque... Télévision et radio.
Télévision et radio, bien sûr. Ouais. C'est presque la parité, mais c'est pas encore tout à fait la parité. Donc encore un petit effort, hein, si je puis dire. On a la chance d'avoir quand même des entreprises, c'est particulièrement vrai pour l'audiovisuel public, qui sont pilotées par des femmes. Sybille Veil en est une illustration, Delphine Ernotte, Marie-Christine Saragosse pour France Média Monde. Donc elles impulsent une volonté qui est très, très nette. Mais c'est vrai également des acteurs privés, il y a un mouvement qui est lancé. De même, la place des expertes a progressé de façon significative.
Plus sur certains sujets que sur d'autres.
Plus sur certains sujets que
plus
sur d'autres.
Plus sur le social, la justice, voilà, que sur la technologie ou la science, par
exemple.
Exactement.
Et il y a des domaines sur lesquels on voit qu'il y a de la marge. Je pense au sport, même si on connaît des journalistes femmes de grands talents. Il faut incontestablement aller plus loin. Et la politique aussi. Et la politique aussi, il y a moins de femmes qui sont invitées. Et c'est d'ailleurs singulier d'observer qu'il y a 4 femmes candidates sur 12 candidats pour l'élection présidentielle.
Néanmoins, ça progresse. Alors, 43% pour le temps de présence, 36% pour le temps de parole, puisqu'on en parlait. Là aussi, il y a un décalage. À quoi sont dus ces progrès? C'est une prise de conscience. Vous parliez des dirigeants de femmes, ça joue sans doute. Quels éléments?
Écoutez, je crois qu'il y a un mouvement inéluctable de la société. Il y a des choses que notre société ne supporte plus. Et cette inégalité entre les femmes et les hommes est intolérable. C'est intolérable en matière salariale, c'est intolérable en termes de responsabilité dans les fonctions qu'on peut occuper ici ou là à compétences égales. Donc ce mouvement, il est inscrit, la société le demande, la loi est intervenue ici dans un certain nombre de domaines. Donc voilà, j'ai confiance dans l'avenir, mais c'est très important d'avoir ce rendez-vous tous les ans à l'occasion de cette journée du 8 mars pour faire ce point et de maintenir la pression.
Roch-Olivier Metz, vous dites régulièrement que l'ARCOM ne contrôle pas la ligne éditoriale des chaînes. La diffusion de la chaîne pro-russe RT France a été suspendue la semaine dernière sur décision politique de l'Union européenne. L'ARCOM était obligé d'appliquer cette mesure ?
Absolument, c'est une règle de droit européen qui s'imposait à l'ensemble des pays de l'Union. Et donc, les opérateurs nationaux étaient tenus de le mettre en œuvre. Donc, ça a été mis en œuvre par tous les distributeurs, donc Canal+, Molotov, Free, par les fournisseurs d'accès. C'est une décision de l'Union dans une circonstance très exceptionnelle, dans un climat de guerre sur le continent, et qui ne met en rien en cause la liberté d'expression. Je rappelle toujours que la première mission de l'ARCOM, c'est de défendre la liberté de communication, et nous le faisons quotidiennement. Beaucoup plus qu'on l'imagine. Si on devait suivre toutes les interpellations qui nous sont faites sur tel ou tel programme, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus ni chaîne de télévision, ni chaîne de radio. Donc on préserve les humoristes de France Inter quand ils s'expriment, on préserve des émissions de débat. C'est notre pays est marqué par la liberté de communication et nous sommes très attachés.
Ça n'entache pas la liberté d'expression, dites-vous. Chez RT France, on peut vous faire valoir que c'est une censure quasiment au sens premier du terme.
C'est une fois encore, regardons la circonstance très particulière dans laquelle on est. Le dispositif retenu par l'Union européenne, c'est une actualisation des sanctions qui ont été prononcées par l'Union en 2014 contre la Russie. Dans les décisions récentes, gel de ses avoirs, sortie des systèmes de financement internationaux. C'était une chaîne qui est quand même financée à hauteur de sommes très importantes par l'État russe et on peut comprendre que l'Union ait souhaité prendre cette position. Je rappelle que l'Union est en initiative en ce moment pour prendre un nouveau règlement qui s'appelle l'EMFA, le European Media Freedom Act, qui précisément aura pour objet de protéger la liberté des médias en Europe. Comme quoi l'Union a aussi conscience de cet enjeu pour nos médias, nos enjeux démocratiques sur le continent.
Concrètement, ça veut dire que ça entraîne la suspension de la convention que vous aviez avec la chaîne. Est-ce qu'il y a une date pour réexaminer la situation ou c'est le pouvoir européen qui décide ?
Non, l'Union européenne, la décision de l'Union européenne parle effectivement de suspension, mais sans préciser davantage de date. Donc on peut penser que ça sera le temps que le conflit durera, à minimum.
Merci Roch-Olivier Maistre.
Merci beaucoup de votre invitation.
L'ARCOM d'être venu dans les studios de France Inter et les détails sur ce rapport sur la présence des femmes à la télévision et la radio, on les retrouve sur France Inter et sur le site de l'ARCOM. 13h45.
France Inter. Le 13-14.
À suivre, le vif de l'histoire dans 10 minutes. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Alors Vladimir Poutine laisse planer la menace d'une attaque nucléaire civile ou militaire. Quelle conception a-t-on du nucléaire en Russie ?
C'est pas la même représentation peut-être qu'en Occident, du moins jusqu'à Tchernobyl.
Vous nous direz cela dans un instant. Le feuilleton, c'est un des sujets importants de la campagne présidentielle. Une maison de retraite à taille et dimension humaine, c'est dans les Deux-Sèvres. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
C'est un domaine où la parité homme-femme est encore un objectif lointain. Science et nouvelles technologies. En ce 8 mars, la docteure en sciences et entrepreneuse Aurélie Jean, qui a récemment publié « Les algorithmes font-ils la loi ?» est à votre micro. Nous sommes également en pleine semaine des mathématiques.
Oui, semaine organisée dans les établissements scolaires pour renforcer l'attractivité des maths, matière qu'Aurélie Jean a toujours adorée en primaire, au collège, au lycée. Elle a toujours trouvé que c'était la plus drôle. Et la plus facile également, le clip de la chanson dont elle a choisi de me parler est d'ailleurs assez amusant lui aussi.
Donc c'est Roar de Katy Perry qui est sorti en 2013 et ça raconte l'histoire d'une femme. Il y a un crash d'avion dans l'histoire, elle se retrouve dans la jungle. On la voit en tenue assez corporate et au fur et à mesure du clip, on se rend compte au départ, elle dit voilà, moi j'ai toujours parlé peu, je donnais peu mon avis, je m'effaçais, je m'excusais, etc. etc. Et puis à un moment, au fur et à mesure de l'histoire, on la voit se transformer en sauvageonne, en amazone, où elle dit au contraire, voilà, bah maintenant je parle et je crie, je rugis. Plus fort qu'un lion. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. Et on voit cette femme en fait qui se transforme et qui navigue dans cette jungle avec tous les obstacles, tous les dangers, et elle y arrive parce que justement elle a le bon état d'esprit qui est de dire bah je vais rugir plus qu'un lion et vous allez m'entendre. Voilà, c'est peut-être mon côté féministe qui ressort, mais j'aime bien parce que je trouve que ça donne la patate et ça montre que rien n'est impossible et qu'il faut essayer en tout cas.
Dans le clip, l'homme qui l'accompagne, lui, se fait dévorer.
Exactement, oui, j'ai oublié de le dire ça, c'est vrai. Petit détail important, voilà, l'homme se fait dévorer.
Je suis une championne et tu vas m'entendre rugir, chante donc ici Katy Perry, Frédéric.
Subplanétaire et succès planétaire pour le clip. Plus de 3 milliards 535 millions de vues sur Internet, c'est considérable.
Oui.
Error, c'est une chanson que la numéricienne Aurélie Jean n'a jamais cessé d'écouter depuis qu'elle l'a découverte l'année de sa sortie. Elle partage sa vie entre la France et les États-Unis. À l'époque, elle habitait à Boston.
En travaillant, j'écoutais une playlist quelconque et cette chanson est apparue. Et ce qui m'a intriguée, ce qui n'est pas souvent le cas dans les chansons américaines, c'est que je trouvais que les paroles étaient extraordinaires, étaient vraiment pétillantes, inspirantes, qui donnaient le peps. Voilà, qui a un lyrics qui est assez joli. Et encore une fois, les paroles sont étonnantes.
Donc c'est une chanson d'affirmation de soi.
Exactement.
Et c'est une femme qui prend le pouvoir.
C'est une femme qui prend le pouvoir, qui ne s'excuse pas d'exister, qui ne s'excuse pas de penser, de parler. Ça fait du bien.
Vous avez l'impression que vous, vous avez dû batailler pour prendre le pouvoir ?
Je bataille encore. Hein. Mais oui, en fait, moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu des mentors qui étaient le professeur George Engelmeyer, mon premier directeur de recherche en 2009 aux États-Unis, et qui m'a dit, en fait, que j'avais des idées, qu'il fallait que je parle, évoluant, comme vous pouvez l'imaginer, dans un monde majoritairement masculin. Puis après, j'ai eu plein d'autres mentors. Je pense à Dr. Tara Swart au MIT, professeur John Janopoulos, Raoul Radovitsky, tous ces gens qui m'ont dit, mais vas-y, quoi.
Cette chanson, finalement, elle vous donne la patate.
Mais exactement.
Elle raconte aussi un peu votre vie.
Peut-être, ouais, peut-être. Ouais. Je suis très honorée d'être comparée à Katy Perry, d'ailleurs, parce que je trouve que c'est une femme vraiment extraordinaire. Et c'est un beau message, je trouve, pour toutes les filles, non ?
C'est la reine de la jungle.
C'est la reine de la jungle, ouais, parce qu'elle rugit plus fort que le lion.
Vous rugissez dans la vie, vous ?
Non, parce que je monte pas souvent le ton. C'est pas mon style. Par contre, au fond de moi, je peux bouillonner. Ouais, ça c'est sûr.
Donc elle rugit pour nous, finalement, Katy Perry.
Ouais, quelque part, elle rugit pour nous. Ouais. Et quand je mets cette musique, justement, c'est pour l'entendre rugir. Et je fais un transfert de mon rugissement intérieur, on va dire ça comme ça.
J'ai l'œil du tigre, chante-t-elle. Roar, Katy Perry, c'était donc, Frédéric, le choix de la numéricienne, dites-vous, Aurélie Jean ?
Dans le dernier livre, « Les algorithmes font-ils la loi ?» est publié aux éditions de l'Observatoire. Docteur en sciences et entrepreneuse Aurélie Jean.
Et donc spécialiste du numérique. Merci Frédéric Pommier, 13h50. C'est l'heure du feuilleton, nous passons la semaine dans la résidence Sévillé-Anneau, maison de retraite coopérative à Cerizay, dans les Deux-Sèvres, en Nouvelle-Aquitaine. 26 résidents, avec Mathilde Dehimi, on vous a raconté hier comment la mairie s'était opposée au rachat de l'EHPAD par le groupe Orpea. Dans ce deuxième épisode, le mot d'ordre de la maison, bien traitance. Hélène, qui va se présenter, arrive chez une pensionnaire à la fin de sa sieste. La dame s'appelle Odette, elle a 90 ans. Le feuilleton, Mathilde Dehimi.
Toc, toc, toc.
Bonjour Odette.
Bonjour.
Ça va ? La sieste a été bonne ?
Oh oui, j'ai dormi.
Bon, ben c'est bien.
Faudrait là, mettre des gouttes dans les yeux.
Ouais, c'est vrai que c'était encore... c'est déjà devenu rouge.
On va
et...
mieux, mais...
Je vais allumer la lumière. Attention vos yeux.
C'est à moi le haut, là-bas, la valise. En haut.
Mais je la descende, là ?
Oui. D'avoir des trésors.
Vous voulez voir ce qu'il y a dedans. Alors, il y a une petite pochette transparente. Il y a le rasoir à Auguste.
Oh, il marche si bien.
Il marche encore.
Il marche encore, il marche bien.
Le parfum, j'espère pas ça le parfum.
Odette, le temps passe vite ici.
Oui, ça passe vite.
Pourquoi ? Vous faites plein de choses ?
Oh non, je fais rien du tout. Je dors.
Allez, je vous accompagne en salle à manger. Je suis Hélène, je suis aide médico-psychologique.
C'est quoi votre métier alors ?
C'est l'accompagnement des personnes au quotidien, dans tous les actes de la vie quotidienne. Mais les AMP sont plus dans le relationnel et moins dans le soin que les aides-soignantes.
C'est pour ça que vous avez pris du temps avec Odette ?
Oui, moi j'aime bien prendre le temps avec les gens et de creuser, de ne pas faire que le, lever de sieste ou des choses comme ça. Savoir comment ils vont.
Ça fait combien de temps que vous travaillez là ?
Là, ça fait 5 ans. J'ai eu la chance de trouver tout de suite un CDI dans cette structure et je ne regrette vraiment pas parce que je n'ai jamais connu un établissement aussi top dans l'accompagnement des personnes, le respect, le temps qu'on nous accorde pour s'en occuper. Je ne changerais pour rien au monde.
C'est pas ce qu'on dit des EHPAD hein, d'habitude.
Mais franchement, non, c'est clair. Il y a tellement peu d'établissements comme le nôtre. On sait très bien que les grands EHPAD, c'est l'usine. Hein. Les gens, ils ne sont pas changés assez d'engraisse dans leur pipi, dans leur caca. On ne donne pas assez de moyens humains pour bien s'occuper de ces gens-là. On est grands EHPAD. Enfin, on se dit qu'on est bien ici et que les résidents, des fois, ils râlent. Mais en fait, il faut voir qu'ailleurs, ça peut être terrible.
C'est quelque chose que vous avez en tête, le mot maltraitance, dans votre quotidien ?
Ah bah oui, parce que moi-même, j'ai fait une formation bien traitance. Et tous les trimestres, on se réunit entre nous pour parler de notre pratique, pour justement améliorer notre prise en charge. On est vigilante à ça, oui. J'ai un exemple en tête, là, on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Une dame qui déambule beaucoup, qui a des troubles cognitifs, qui peut se changer plusieurs fois par jour... Et pendant une période, on a fermé son armoire à clé, on a caché la clé. Et même moi, je me disais, mais c'est pas bien qu'on fasse ça, parce que même elle, elle disait, ben, je comprends pas, la porte s'ouvre pas. Donc en fait, on arrête de faire ça. On s'est dit qu'elle était chez elle et qu'elle avait le droit de regarder dans son armoire et puis de changer 6 fois par jour. Ben, c'est pas grave, tant pis. Bonjour Marie.
Bonjour. Bonjour Marie.
Oui. Je discute. Ah bah allez donc boire le café.
Non, je veux pas faire.
Le jus de pomme.
Le feuilleton dans cette maison de retraite de Cerizay dans les Deux-Sèvres, nouvel épisode demain.
France Inter, le 13-14.
L'Agence internationale de l'énergie atomique l'a vérifié ces dernières heures. Des obus d'artillerie ont endommagé dimanche une installation de recherche nucléaire en Ukraine. Nouveau bombardement russe depuis le 24 février. Vladimir Poutine, là c'est le nucléaire militaire, a mis en alerte la force de dissuasion russe. Et le vendredi 4 mars, l'armée a bombardé un bâtiment annexe de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Le nucléaire vu de Moscou, c'est votre vif de l'histoire, Jean Lebrun. Lorsque Poutine menace du feu nucléaire, on serait tenté de croire qu'il s'inscrit dans la tradition soviétique de la guerre froide. Eh ben non.
Je viens de lire en me grattant la tête une étude ébouriffante sur le sujet signée Jacques Le Bourgeois et parue dans un collectif Les Imaginaires du nucléaire. Eh ben, vous serez peut-être surpris. Les Russes ont souvent eu du nucléaire une représentation plus tranquille que nous. Ce qui explique peut-être que Poutine en parle si facilement comme un brûle-pourpoint. D'abord, il faut savoir qu'à l'origine, Staline n'avait pas laissé s'imposer une image trop effrayante d'Hiroshima. Tant qu'il ne disposait pas lui-même de la bombe atomique, il convenait de la présenter comme une arme à peine un peu exceptionnelle. Et quand les premiers essais eurent lieu, à partir de 1949, Staline se garda bien de s'épancher sur eux. Au milieu des années 50, il fut seulement permis de chanter les progrès apportés par le nucléaire civil. Vous venez de faire la différence. Le domaine de la physique nucléaire en URSS resta entouré du plus grand secret. Main d'œuvre du goulag sur les lieux d'extraction de l'uranium. Personnel scientifique verrouillé dans des villes spécialisées, les atomgrades. On se vantait du Spoutnik, pas de la bombe. Et quand on le disait souvent, qu'il y avait une menace nucléaire, elle ne pouvait venir que de l'autre.
Grande différence avec aujourd'hui, Moscou voulait alors apparaître comme une puissance de paix ?
Ben oui, il pouvait arriver aux dirigeants soviétiques de parler violemment, comme Poutine. On se souvient de Khrouchtchev frappant la table de sa chaussure, mais c'était à l'ONU, dans une enceinte internationale, qu'il ne viendrait plus à l'esprit de Poutine de fréquenter encore. Comment, avec son langage d'aujourd'hui, se faire des amis dans le monde, au mieux des clients effrayés ? À l'époque de la guerre froide, les soviétiques, eux, laissaient les bombes dissimulées dans leurs bases et avec le relais des partis communistes locaux et du mouvement de la paix, ils cherchaient à impressionner positivement les opinions publiques en procédant sans cesse à des lâchers symboliques de colombes, vous savez, les fameuses colombes dessinées par Picasso.
Certes, mais les crises n'ont pas manqué quand même.
62, Cuba, l'installation de fusées menaçant les États-Unis. Fin des années 70, les missiles SS-20 menaçant cette fois l'Europe. Mais à chaque fois que le danger a été frôlé,
Moscou a accepté d'entonner ensuite le discours rassurant de la limitation des armes les plus dangereuses. Ses dirigeants pouvaient être persuadés que la querelle entre les deux grandes idéologies devait être vidée un jour, mais ils se livraient en attendant à des concours de vertu. C'est ainsi que les Soviétiques auraient été globalement moins inquiets du risque nucléaire que les Occidentaux.
Jusqu'à 1986, c'est Tchernobyl.
Gorbatchev avait alors accédé au pouvoir, il pratiquait la transparence en même temps que le discours pacifiste. Quand survint l'accident de Tchernobyl, les instruments utilisés par lui pour l'ouverture se retournèrent contre lui. En la circonstance, Jacques Le Bourgeois, dont j'ai cité le texte au début de cette chronique, observe que l'opinion russe, cette fois, a rejoint l'opinion occidentale dans le même effroi qu'on se souvienne des livres de Svetlana Alexeyevitch, qui rapproche les soldats ramenés morts d'Afghanistan de leur cercueil de plomb, des liquidateurs qui s'étaient portés sur le front de la centrale. Poutine va-t-il mesurer les effets psychologiques sur sa population d'un accident qu'il pourrait provoquer dans une centrale ukrainienne?
Et ce texte de Jacques Le Bourgeois est dans un recueil collectif publié en septembre dernier chez Odile Jacob, Les imaginaires nucléaires. Dans la série Ça fait peur, dans un genre très différent, le requin, c'est cela dans la Terre au carré, Mathieu
Hida? Non, ça fait pas peur du tout, ces grosses bêtes. On va recevoir l'homme qui murmure à leur oreille, c'est le plongeur François Sarano.
À tout de suite.